Deutsche Welle, le journal. Fréjus Kenom.
17h en temps universel et à Bangui. Bonsoir à tous et à bonjour. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition du soir de nos informations. Au sommaire, la Gambie où le fauteuil présidentiel reste vide depuis le départ samedi de Yaya Djamé. Les dessous par ailleurs de l'engagement du Sénégal dans ce dossier analysé par un expert dans ce journal. Dans ce journal encore, les troubles en Côte d'Ivoire, l'ampleur de la contestation sociale fait songer à une conférence nationale. La lente progression des discussions politique en République démocratique du Congo et, loin des querelles politiciennes, nous parlerons des préoccupations dans le secteur rural en Afrique. C'était les principaux titres de cette édition, mais pour tout commencer, voici un tour de l'actualité internationale avec Philippe Pognan. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
La Russie, pour commencer, la Russie, la Turquie et l'Iran ont trouvé un accord pour consolider le cessez-le-feu en Syrie.
Les trois parrains des pourparlers de paix vont mettre en place un mécanisme pour surveiller et s'assurer de la complète mise en œuvre du cessez-le-feu et éviter toute provocation en Syrie. C'est ce qui ressort de la déclaration finale, adoptée après 2 jours de discussion à Astana, la capitale du Kazakhstan. Les rebelles ont par ailleurs obtenu le soutien de Moscou, de Téhéran et d'Ankara pour leur participation au prochain pourparlers de paix qui doivent se tenir à Genève le 8 février sous l'égide de l'ONU. Toutefois, un accord entre le gouvernement du président syrien Bachar al-Assad et l'opposition n'est toujours pas en vue. Écoutons Bouram Galyoun, un représentant de l'opposition politique syrienne à Astana. Cette rencontre d'Astana s'est limitée aux affaires militaires pour que les adversaires puissent négocier le cessez-le-feu. Les autres négociations qui doivent suivre auront lieu de nouveau à Genève.
La décision de Donald Trump de retirer les États-Unis du TPP, le traité de libre-échange transpacifique, suscite le mécontentement des États concernés.
Le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ont annoncé qu'ils essaieraient malgré tout de sauver le traité. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Fumio Kishida, a fait remarquer que les États-Unis ont considérablement profité eux-mêmes du libre-échange commercial après la Seconde Guerre mondiale. Le premier ministre australien Malcolm Turnbull a exprimé, lui, l'espoir que l'administration Trump puisse encore changer d'avis. Mais, a-t-il souligné, il existe aussi l'éventualité de parvenir à un tel traité sans la participation des États-Unis. Rappelons que ce n'est qu'après de longues années de négociations par 12 pays riverains ou proches de l'océan Pacifique que le TPP a été signé en 2015, mais il n'est pas entré en vigueur.
Le nouveau secrétaire d'État américain à la Défense assure de l'engagement inébranlable de Washington envers l'OTAN.
Une alliance unitaire atlantique que le nouveau président Donald Trump avait pourtant qualifiée d'obsolète pendant sa campagne. À son premier jour en fonction, le chef du Pentagone, James Mattis, a eu des entretiens téléphoniques avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ainsi qu'avec ses homologues britanniques et canadiens. Le nouveau secrétaire d'État américain à la Défense a discuté du rôle clé joué par l'OTAN dans la sécurité transatlantique. Il a par ailleurs insisté sur l'engagement inébranlable, a-t-il dit, des États-Unis envers l'Alliance Atlantique.
En Grande-Bretagne, maintenant, le Parlement devra approuver le lancement du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Le gouvernement de Theresa May devrait en effet obtenir l'approbation du Parlement avant de lancer les négociations de sortie de l'Union européenne. Ainsi en ont décidé les 11 juges de la Cour suprême britannique. Ils ont par ailleurs décidé à l'unanimité qu'il était inutile de consulter les parlements régionaux d'Écosse, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord. Une déception pour l'Écosse qui avait voté pour rester dans l'Union européenne lors du référendum de juin dernier. Si la première ministre britannique ne dispose que d'une étroite majorité à la Chambre des communes, Theresa May ne devrait néanmoins pas avoir de difficulté à faire voter le Parlement en faveur du processus de sortie, car le Labour, principal parti d'opposition, a répété sa promesse de ne pas bloquer le processus.
En Allemagne, le chef de file du SPD, le parti social-démocrate Sigmar Gabriel, renonce à présenter sa candidature à la chancellerie.
Sigmar Gabriel, qui est aussi ministre de l'économie et vice-chancelier dans le gouvernement de coalition à Berlin, ne se lancera donc pas dans la course contre la chancelière Angela Merkel lors des législatives du 24 septembre prochain. Crédité d'un score historiquement très bas dans les sondages, Sigmar Gabriel a proposé à sa place l'ex-président du Parlement européen Martin Schulz.
Martin Schulz, qui est quelqu'un d'un peu aimé quand même dans le pays, 26 réfugiés afghans dont la demande d'asile a été déboutée en Allemagne sont arrivés ce mardi à Kaboul.
Oui, il s'agit là du deuxième rapatriement d'Afghans au terme de l'accord signé entre les autorités européennes et afghanes en octobre dernier. Lors de ce vol charter, 80 policiers allemands ont escorté 26 jeunes hommes dont la demande d'asile avait été rejetée par les autorités allemandes. Une petite manifestation de 250 personnes s'était opposée en vain au départ de ces hommes à l'aéroport de Francfort. Le conflit en Afghanistan, rappelons-le, perdure. Il a fait déjà 9000 morts et blessés parmi les civils sur les 9 premiers mois de 2016.
18h05 dans nos studios. Merci beaucoup. C'était le bulletin d'information de Philippe Poyen. L'actualité africaine de ce 24 janvier est une journée qui s'achève sans le retour du président de Gambie, le nouveau président Adama Barrow, alors que là-bas, ses compatriotes attendent qu'il vienne occuper le fauteuil présidentiel. Et pendant ce temps, les soldats de la MICEGA, la mission de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest en Gambie, continuent de sécuriser le pays. Et ce sont les soldats sénégalais qui sont aux premières loges. Les deux pays, Gambie et Sénégal, étant liés par l'histoire, la culture et la géographie. Éric Topona.
Oui, Fréjus Kenom, le Sénégal et la Gambie faisaient même partie d'un territoire commun avant leur éclatement. Cependant, depuis leur accession respective à la souveraineté internationale, eh bien, les deux pays ont toujours entretenu des relations tendues. Tensions nées du fait que Dakar a toujours mal vécu sa séparation de ce territoire. Et selon de nombreux historiens, cette séparation est perçue comme une banane dans la gueule du Sénégal. En décidant donc de s'impliquer activement dans la résolution de la crise gambienne, eh bien le président Macky Sall espère en retirer des dividendes. C'est ce qu'estime le sociologue guinéen Bano Bari.
Il est évident que pour le Sénégal, le départ de Djamé va permettre en réalité de clore le dossier de la Casamance en neutralisant les forces armées de ce mouvement de rébellion qui avait trouvé pignon sur rue en Gambie, mais aussi en s'assurant désormais d'avoir un double contrôle à la fois sur la Gambie à côté, mais aussi sur la Guinée-Bissau de l'autre côté, pour essayer de sécuriser la Casamance.
L'analyse donc du sociologue guinéen Bano Bari. Alors Eric, comme on vient de l'entendre, le Sénégal espère donc résorber la crise en Casamance avec le départ de Yaya Djamé.
Oui, tout à fait Fréjus, et une thèse qui ne choque pas le politologue sénégalais Mohamed Gaye. Pour Mohamed Gaye donc, Mohamed Gaye a été plutôt conseiller pendant 6 ans, conseiller en communication politique de l'ancien président sénégalais Maître Abdoulaye Wade.
Le conflit en Casamance, c'était un conflit qui date même avant les indépendances. Déjà, l'État a consenti beaucoup de moyens sur le plan humain, sur le plan logistique pour résoudre ce problème. Et si nous arrivons maintenant aujourd'hui à avoir un président qui est prêt à jouer le jeu, c'est aussi le président Macky Sall comme le président Barrow. Je pense que tout le monde doit s'en réjouir.
Et puis en plus de son instrumentalisation pour contenir le conflit casamançais, la plupart donc des analystes que nous avons joints craignent même que le président Adama Barrow ne devienne un vassal à la solde de son homologue sénégalais. Ils en veulent pour preuve, ces analystes, le temps mis par le nouveau président gambien, Adama Barrow, à quitter Dakar en dépit du départ donc de l'ex-président Yaya Jammeh.
Et nos auditeurs continuent de réagir très nombreux à la situation en Gambie. Nous revenons dans ce journal, donc à la fin de cette première partie du journal, dans la page de l'auditeur de Mireille Drone, sur quelques réactions donc de nos auditeurs. En attendant, sachez que 3 jours donc après le départ de Yaya Djamé, les langues se délient de plus en plus. Khalifa Sallah, un des porte-parole du nouveau président Adama Barrow, a assuré qu'il y avait eu des arrangements pour faciliter le départ samedi du désormais ex-président gambien et garantir qu'il ne reviendrait pas dans le pays. D'après un témoin qui était à l'aéroport le soir du départ de Djamé, 2 Rolls-Royce et une Mercedes-Benz avaient été chargés sur un avion cargo tchadien. Environ 10 voitures appartenant à Djamé doivent encore quitter la Gambie, dont une Bentley, des Land Rovers, une Mini Cooper et une autre Mercedes, selon des sources diplomatiques. La situation en Côte d'Ivoire depuis le début de l'année, militaires, fonctionnaires, agents de l'État, gendarmes, gendarmes, gardes pénitentiaires et sapeurs-pompiers manifestent en Côte d'Ivoire pour exiger de meilleurs traitements salariaux et des meilleures conditions de travail. La situation est de plus en plus critique. Tous les corps de métier sont à présent rentrés dans la danse. Le gouvernement, qui semble avoir dos au mur, a engagé le dialogue avec les syndicats. Les précisions de notre correspondant à Abidjan, Julien Adaillé.
Après la mutinerie des soldats de l'ancienne rébellion au début du mois de janvier, suivie de la grève des fonctionnaires dans presque tous les corps de métier, ce sont des militaires et des gendarmes de l'ancienne armée régulière qui sont rentrés dans la danse à la mi-janvier dernier. Depuis hier, c'est un autre groupe de gendarmes qui a pris le corridor nord d'Abidjan, tandis que des pompiers de l'Office national de la protection civile barricadaient plusieurs rues du quartier résidentiel de Cocody. Tout cela fait dire à Christophe Kwame de Civis Côte d'Ivoire que la situation s'est déjà généralisée.
La situation s'est déjà généralisée. Ce qui a lieu de faire, c'est que le gouvernement doit anticiper que la crise ne soit pas encore plus profonde qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il est temps que le gouvernement sorte de son mutisme. Pour nous, il est question d'un appel à une concertation nationale, comme l'ont proposé déjà les évêques ivoiriens.
Malgré l'appel du gouvernement au calme et à la reprise des activités pour ne pas asphyxier l'économie du pays, les bureaux restent encore vides. Selon Christophe Kwame, le gouvernement est seul responsable pour ce qui arrive actuellement à la Côte d'Ivoire. Pour lui, le président Ouattara n'aurait pas dû céder au premier coup de fusil.
Ce que le gouvernement n'a pas fait, c'est d'accepter seul, hors budget, par exemple, de répondre à la première mutinerie. Cela pose le problème de la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, tous les corps sont en train de revendiquer.
L'erreur est déjà faite. Le front social est en ébullition. Chacun veut sa part de gâteau. Mais le budget actuel de la Côte d'Ivoire peut-il supporter toutes ses propres charges et répondre à ses revendications ? Christophe Kwame.
Nous avons un budget de 6 500 milliards de francs CFA pour 2017. Nulle part il n'était prévu 102 milliards pour payer une mutinerie. Les conséquences sont là, tout le monde demande et le gouvernement semble coincé parce qu'il a mal agi. Et je répète, le gouvernement a agi de manière illégale.
En ce moment même, les négociations sont en cours entre le pouvoir et syndicats de la fonction publique afin de désamorcer la bombe de la fronde sociale. Mais à chaque jour, avec son mouvement de soulèvement et de revendication. Alors, question, le gouvernement réussira-t-il à redonner confiance à son armée et aux syndicats des travailleurs? Rien n'est encore sûr. Julien Adaillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle.
La Côte d'Ivoire, qui est représentée au Tchad dans le cadre d'une réunion, la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel tient en effet aujourd'hui à N'Djamena, la capitale tchadienne, son cinquième atelier sur le thème « Rôle des leaders religieux de la région du Sahel dans la protection des jeunes contre l'extrémisme violent ». Une dizaine de pays d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne participent à ce forum qui vise donc à réfléchir à la protection des jeunes contre le radicalisme et l'extrémisme violent.
Deutsche Welle. Rendez-vous sur facebook.com/dw.français.
Au Burundi, une attaque a été menée la nuit dernière contre un camp militaire dans le nord du pays. D'après des déclarations du porte-parole de l'armée burundaise, 5 suspects ont été arrêtés ainsi que des fusils, des grenades et plusieurs cartouches ont été saisies. Des enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cette attaque. Le Burundi, où il y a eu libération dimanche de 300 prisonniers suite à une mesure de grâce présidentielle. Parmi ces prisonniers, il y a des détenus politiques opposés au troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza. Certains d'entre eux ont purgé 5 ans d'emprisonnement et d'autres les 3/4 de leur peine. Officiellement, il s'agirait d'une intention du président Pierre Nkurunziza de créer des conditions plus propices dans les prisons. Mais l'on sait que la libération de prisonniers politiques figurait parmi les conditions posées par l'Union européenne, principal bailleur de fonds, pour reprendre son assistance au Burundi. L'opération a été lancée à la prison centrale de Pimba à Bujumbura. Le récit d'Antéditest Niragira, notre correspondant à Bujumbura.
C'est dans cette ambiance que les prisonniers attendaient le lancement de la grâce présidentielle. L'amnistie touche naturellement même les prisonniers politiques. La ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'adresse à la foule. Aimée Laurentine Kanyana.
Le président de la République du Burundi a bien voulu toucher ceux qui ont été condamnés pour des actes criminels commis lors des mouvements insurrectionnels qui ont été organisés depuis 2014. Cette mesure concerne deux catégories de détenus. Il s'agit de ceux qui ont obtenu la remise totale de leur peine et ceux dont la peine a été commuée.
Jean-Marie Ndayishimiye, son surnom Moto le Feu. C'est un militant du parti Mouvement pour la solidarité et la démocratie. Se réjouissant de la mesure de clémence dont il bénéficie, il songe toujours à ses camarades qui croupissent encore en prison et crie pour leur mise à liberté.
Nous sommes heureux, mais nous avons nos frères encore en prison et qui sont accusés d'avoir attaqué les camps militaires. Nous demandons leur libération. Les détenus politiques sont nombreux en prison. Qu'ils soient libérés pour que nous construisions le pays afin de vivre en paix. Le président est toujours en poste. Qu'il nous pardonne à nous tous.
Les opposants au régime Nkurunziza contactés à propos se gardent encore de commenter la mesure juste au début du processus de libération. 300 prisonniers, hommes, femmes et enfants ont été libérés. François-Xavier Ndarouzanié préside la Ligue des droits de l'homme Isélé. Il salue cette libération, une solution à la surpopulation carcérale.
Il y a des jeunes qui avaient été manipulés, qui avaient encore besoin de vivre, d'étudier, de vaquer à leurs activités pour se développer, mais qui croupissaient dans les maisons de détention. Nous espérons que ces jeunes ne vont pas encore plonger dans la violence. Ils ont été sûrement redressés. Cette mesure va essayer aussi de dégonfler les maisons de détention parce qu'il y a encore un nombre imposant de prisonniers.
2500 prisonniers seront graciés au niveau national. Antelitest Nedagira à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
En République démocratique du Congo, pays voisin du Burundi, les discussions sur les modalités de mise en application de l'accord politique inclusif sont toujours en cours. La CENCO, la conférence épiscopale nationale qui en assure la médiation, a fixé un ultimatum. C'est samedi prochain, date limite pour mettre un terme à ces discussions. De son côté, le président du rassemblement de l'opposition, Étienne Tshisekedi, a quitté son pays pour Bruxelles pour des raisons de santé officiellement. Est-ce que l'absence au pays de ce poids lourd dans la politique congolaise pourra impacter les transactions, aura une influence sur les tractations en cours? Pour en parler, nous sommes en studio avec Fierk Ndaïra Guigé. Bonsoir Fierk.
Bonsoir Frégis. Il faut rappeler les racines profondes de cet opposant sur le plan politique. Il a été plusieurs fois ministre à l'époque de Mobutu et depuis 1997, il est à la tête de son parti, l'UDPS. Il avait refusé d'entrer dans le gouvernement de transition, c'était en 2003, et se retrouve maintenant destiné à diriger le comité national de suivi de l'accord inclusif. Joseph Olengankoy, membre du comité des sages et du rassemblement de l'opposition.
Cette institution a été créée pour lui trouver une place auquel il peut contribuer sur l'évolution du problème du pays. Alors, il est parti juste voir ses médecins, en fonction de ses rendez-vous, c'est tout à fait normal, il ne peut rien inquiéter l'institution parce qu'il est juste parti voir son médecin et retourner au pays.
Voilà, on voit que le départ en Belgique pour officiellement des raisons de santé de Étienne Tshisekedi suscite beaucoup de commentaires fiacres, mais que cet homme soit sur place ou pas, les discussions piétinent quand même.
La conférence épiscopale nationale souhaite que ces discussions prennent fin d'ici samedi. Or, la question des répartitions des sièges au gouvernement a été abordée aujourd'hui et elle est épineuse. La majorité, comme l'opposition, se rejette et l'auteur, Tekis Moulaïla, c'est le sénateur ici du parti au pouvoir, le PPRD.
Malheureusement, elle vient de découvrir que ces politiciens de l'opposition sont des démarcheurs de postes politiques. Et tant que les violons ne s'accordent pas en ce qui concerne leurs ambitions et les postes qu'ils sollicitent, c'est normal que cela continue et que ça piétine.
Plus de 20 jours après la signature de l'accord inclusif, les participants au dialogue n'ont pas encore mis en place un gouvernement d'union, un gouvernement dont la mission est celle d'organiser les élections dans un climat favorable d'ici la fin de l'année.
Merci Fierk. En bref, visite la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, en Centrafrique. Une visite de 48 heures au cours de laquelle Madame Lagarde devrait rencontrer le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Il est aussi prévu une conférence débat à l'université de Bangui, une visite à la Fondation Voix du Cœur qui prend en charge des enfants de la rue, ainsi qu'une audience avec les responsables du Parlement et de la société civile en Centrafrique. Vous écoutez Radio Deutsche Welle dans la seconde partie de ce journal Nos Magazines, une rediffusion du magazine de Sandrine Blanchard, Droits et Libertés, qui parle de droit à l'homosexualité. Ensuite, à 17h42, temps universel, ça va pulser la musique malienne et c'est dans Pulsation avec Yann Durand. Ne ratez pas ces rendez-vous, c'est à partir de 17h30 en temps universel. Et nous saluons tous nos auditeurs à l'écoute sur Digital Congo 106.5 FM et sur Suite FM à Douala et partout au Cameroun sur 88.7 en bande FM. Hier, les plus grands acteurs du secteur agricole en Afrique se sont réunis à Berlin pour discuter de l'avenir de l'agro-business sur le continent. Le potentiel du secteur est énorme, mais les défis le sont tout autant pour permettre au continent africain d'assurer son autosuffisance alimentaire. La faim touche environ 200 millions de personnes. Rémi Allez, nous en dit plus.
Il y a plus d'un milliard de personnes qui vivent actuellement en Afrique. En 2050, le continent comptera près de 3 milliards d'habitants, preuve d'une démographie dynamique. Mais l'Afrique n'a pas les moyens suffisants pour nourrir toute sa population. Elsie Kanza est membre du Forum économique mondial.
Notre industrie est pauvre et vieillissante et elle est dominée par de vieux agriculteurs qui utilisent des méthodes traditionnelles. Nous n'avons pas une vraie vision pour les futurs agriculteurs.
L'Afrique aura besoin d'augmenter sa production alimentaire de 60% dans les 15 années à venir, sans quoi elle ne pourra pas subvenir aux besoins vitaux de sa population en pleine croissance. Cependant, vu l'état actuel de son industrie, le défi s'avère difficile à relever, à moins de développer des techniques agroalimentaires innovantes. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Lungisile Tsebeza est professeur d'agriculture à l'Université du Cap en Afrique du Sud.
We must use technology.
Nous avons besoin de technologies pour booster notre agriculture. Mais nous devons avoir pour vision de soutenir l'agriculture paysanne et non les grandes exploitations.
Not large-scale commercial farms.
Environ 60% des Africains sont des agriculteurs. La majorité d'entre eux travaillent dans des petites exploitations. Ils obtiennent difficilement de l'argent pour leurs affaires. Gary Collard est responsable Afrique de Ageco, une entreprise américaine de fabrication et de distribution de matériels agricoles.
Ils n'ont pas accès au financement, donc ils ne peuvent pas investir sur leurs terres parce qu'ils ne les possèdent pas. Et nous n'avons pas encore trouvé de modèle économique pour remplacer la garantie foncière.
Dans son projet de développement pour le continent surnommé Plan Marshall pour l'Afrique, l'Allemagne prévoit de gros investissements dans le secteur agricole africain, de quoi rassurer les paysans du continent.
Et en bref encore, le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé aujourd'hui, lors d'une visite à Maputo, aux autorités mozambicaines de l'aider à combattre l'influence du prédicateur Fethullah Gulen. Cet homme est accusé d'être à l'origine d'une tentative de putsch en juillet dernier en Turquie. Le Mozambique est la deuxième étape d'une tournée africaine du président Erdogan, entamée par la Tanzanie. Selon lui, les partisans de M. Gulen ont infiltré l'armée turque, la police turque, les institutions turques et répètent leurs initiatives et leurs agendas cachés dans le monde entier. La revue de presse allemande à présent, Björn Höcke, c'est la bonne prononciation, Philippe ?
Exact, Björn Höcke, oui.
Eh bien, il reste membre de l'AFD. La direction du parti alternatif pour l'Allemagne n'entamera pas de procédure d'exclusion à son encontre. Le chef régional de l'AFD pour la Thuringe, Björn Höcke, avait donc provoqué la polémique en qualifiant le mémorial de l'Holocauste à Berlin de « mémorial de la honte », Philippe.
Oui, la direction de l'AFD parle seulement de mesures disciplinaires. La Taz, die Tageszeitung, souhaite que Björn Höcke reste, dans tous les cas, membre de l'AFD, et le quotidien de gauche explique pourquoi. C'est en toute franchise que l'ancien professeur de lycée fait étalage de ce que de nombreux autres membres de son parti veulent mettre sous le tapis, à savoir une idéologie extrémiste de droite digne du parti néo-nazi NPD. L'AFD essaie en effet par tous les moyens de se positionner comme un parti conservateur de droite, bourgeois, bonhomme, bref, comme un parti éligible pour tous ceux qui estiment que la CDU, le parti conservateur de la chancelière, a trop glissé vers le centre. Exclure Höcke de l'AFD, conclut le journal, ne ferait que rendre ce parti encore plus présentable qu'il ne l'est déjà. Dans sa version online, le magazine Der Spiegel s'indigne. Le nazi Björn Höcke peut rester membre de l'AFD en tant que dirigeant régional du parti. Un homme qui qualifie notre travail de mémoire de bêtise et rejette la conscience de la lourde responsabilité de l'Allemagne vis-à-vis de son histoire et du génocide commis contre 6 millions de juifs. Cela dit tout sur l'AFD et dorénavant sur tous ceux qui voteront pour ce parti, conclut Der Spiegel.
Les premières décisions prises par le président américain Donald Trump font aussi l'objet de nombreux commentaires dans les journaux allemands de ce mardi, Philippe.
Donald Trump passe à l'action de manière plus radicale qu'on ne le craignait, c'est le constat du quotidien Landeszeitung. Le nouveau président des États-Unis a entamé son mandat en signant l'acte de retrait du traité TPP, le traité de libre-échange transpacifique. Pourquoi donc commercer d'égal à égal avec l'Asie, puisque le mot d'ordre est « l'Amérique d'abord », ironise l'éditorialiste qui appelle l'Europe à se réveiller. Les géants américains tels que Apple, Microsoft, Amazon ou Facebook font de bonnes affaires en Europe. Pourtant, ils ne paient que très peu d'impôts. L'Union européenne doit vite agir. Et c'est un appel similaire que lance le quotidien Rheinische Post à Bruxelles. L'Union européenne doit rapidement cesser de se lamenter, elle doit devenir plus concurrentielle, passer ses propres accords commerciaux avec les régions dynamiques, réduire ses structures internes tout en les consolidant. C'est de par ses propres forces que l'Europe doit rester un acteur puissant.
Merci beaucoup Philippe, c'était la revue de la presse allemande alors qu'il est maintenant 17h25, c'est une heure de plus à Libreville au Gabon.
Deutsche Welle, le sport. Ali Farhat.
La suite de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, après le dénouement du groupe B hier, qui a vu la qualification du Sénégal et de la Tunisie, ainsi que l'élimination de l'Algérie, place aujourd'hui au dernier match du groupe C.
À Port-Gentil, le Togo affronte la République démocratique du Congo. Les éperviers qui disputeront probablement ce match sans Kossi Agassa. En effet, le portier togolais, en grande partie responsable des buts concédés face au Maroc, a vu sa maison à Lomé dévastée. Ce qui est arrivé à Kossi Agassa l'a beaucoup perturbé et a abîmé moralement toute l'équipe, a déploré son sélectionneur Claude Leroy. Il a été très ébranlé, je doute fort qu'il soit prêt à effectuer un troisième match de CAN. En revanche, s'il y en a un qui compte bien tout donner sur le terrain ce soir, c'est bien Emmanuel Adebayor. À 32 ans, le capitaine des éperviers dispute peut-être sa toute dernière Coupe d'Afrique des Nations et refuse qu'elle s'arrête en phase de poule. « C'est le match le plus important de ma carrière, pour l'instant de ma vie », a déclaré l'ancien attaquant d'Arsenal. « Si j'ai pris l'avion pour venir à la CAN au Gabon et perdre après deux matchs, ça ne sert à rien. Je veux continuer à vivre l'aventure, je dois montrer la voie, je ne peux pas manquer de courage et donc j'ai dit qu'on jouerait pour se qualifier. Notre destin est entre nos mains. Pendant ce temps, le Maroc jouera contre la Côte d'Ivoire. L'occasion pour Hervé Renard, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, de retrouver les éléphants qu'il avait portés sur le toit de l'Afrique il y a 2 ans et qui a aujourd'hui l'occasion de les éliminer. Pour l'entraîneur français, pas question de verser dans le sentimentalisme. Je dois penser pro, je suis l'entraîneur du Maroc, il faut que le Maroc obtienne sa qualification. De toute façon, c'est l'objectif que je me suis fixé et comme tout entraîneur, j'ai horreur de ne pas les atteindre. Son homologue Michel Dussuyer, lui, s'attend à disputer un 8e de finale. On est conscient que c'est un match couperet. Personne n'a envie de rentrer à la maison. Il faudra tout donner. Cela va se jouer au mental, sur la concentration, la rigueur. Maroc-Côte d'Ivoire, tout comme Togo-République démocratique du Congo, c'est ce soir, donc à partir de 19h en temps universel.
Et Mireille Drouin attend vos réactions après ces matchs. Mireille qui est en studio avec moi. Bonsoir Mireille.
Bonsoir Fréjus, bonsoir à tous.
Vous m'avez rejoint pour la page des auditeurs et internautes qui réagissent à la situation en Gambie.
Et oui, Adama Barrow doit rentrer le plus tôt possible pour asseoir son autorité. C'est ce qu'estime Patrick de Lomé au Togo. Seulement voilà, regrette René du Rwanda, le problème c'est que Yaya Jammeh, en partant, n'a rien laissé dans les caisses de l'État. Du coup, Bewezima de Lomé au Togo se demande comment Adama Barrow va réagir vis-à-vis de la CDAO, l'Union africaine et l'ONU, qui ont permis ce coup d'État financier si vraiment il s'avère que Yaya Jammeh a détourné les fonds de l'État. Peut-être lui ont-ils donné certaines garanties pour qu'il parte, mais cela lui aura permis de piller et mettre ainsi à genoux la Gambie, observe notre auditeur. Mais pour Al-Hadji du Sénégal, pas question d'impunité. Et il lance un appel à la communauté internationale pour faire juger Yaya Jammeh par la Cour pénale internationale. Même s'il est déjà parti, il doit être jugé pour ses crimes contre l'humanité, estime notre auditeur. En revanche, Hakim de Garoua au Cameroun pense que Yaya Jammeh mérite le respect. C'est un homme honnête qui a servi son pays et parti sans verser une goutte de sang. C'est plutôt le nouveau président qui s'est ridiculisé en prêtant serment dans un autre pays. Et selon Hakim, Yaya Jammeh est détesté simplement par son franc-parler et de conclure par un grand merci quand même au président équato-guinéen et guinéen. Aboubacar du Niger remercie aussi le président guinéen Alpha Condé qui a réussi à persuader, Cheikh Jammeh à céder, vive la diplomatie et abat la réaction de certains chefs d'État qui veulent lâchement régler leurs comptes, indifférents aux victimes innocentes que cela peut entraîner, écrit-il.
D'autres auditeurs attendent maintenant que les mêmes efforts soient fournis dans d'autres pays. Suivez mon regard.
Eh oui, parfait. De Lomé au Togo souhaiterait que les médiateurs puissent aussi faire partir Paul Biya du Cameroun, par exemple, Faure Gnassingbé du Togo, Denis Sassou Nguesso au Congo, Obiang Nguema de Guinée équatoriale et tous les chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir pour que souffle un vent d'alternance dans les pays concernés. Et Caps de Kinshasa en RDC souligne aussi qu'ils sont très nombreux, même en RDC, les voleurs qui se prennent pour des intouchables et cela doit changer.
Merci beaucoup, Mireille. Pour la page des auditeurs et internautes, j'ai encore quelques secondes pour rappeler que la grève des fonctionnaires ivoiriens déclenchée le 9 janvier s'est poursuivie aujourd'hui. Les protestataires souhaitent une rencontre avec le président Alassane Ouattara en vue, disent-ils, de décanter la situation toujours bloquée. 17h30 en temps universel. Voici la partie magazine du journal avec Sandrine Blanchard d'abord dans le magazine Droits et Libertés.